Voilà. Première partie de culte. La deuxième, c'est le moment où nous allons nourrir notre âme de la parole de Dieu. Amen. Et un don spirituel qui nous recommande justement de penser à nous nourrir de l'Écriture. Amen. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. On va ouvrir ensemble dans l'Écriture, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42. Et on va lire à partir du verset 1er, on va lire les 9 premiers versets. Voici ce que nous lisons. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec mon peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Dans la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe, puisqu'il s'agit d'une prophétie qui commence au chapitre 40, nous découvrons une chose, c'est que Dieu veut consoler son peuple. C'est d'ailleurs dans ce chapitre que Dieu encourage celui qui est fatigué à échanger sa faiblesse avec sa force. Je lis Ésaïe 40, verset 28. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatigue point. » Alléluia. Vous avez remarqué que pour les adolescents, c'est très court. Ils se fatiguent, ils se lassent. Pouf. Heureusement que l'adolescence est un passage très court. Hein. Eh oui. Alors, comme nous le voyons, c'est par celui que l'Éternel appelle son serviteur que Dieu fait cela. C'est par lui. Quatre passages sont consacrés à celui qu'Ésaïe appelle serviteur. Je vous cite simplement les référents, ne le cherche pas, je ne l'ai pas mis. Ésaïe, chapitre 42, verset 1 à 4, 49, verset 1 à 6, 50, verset 4 à 9, 52, verset 13 et 53, verset 12. Ça, c'est ce qui a trait et ce qui est consacré à celui que l'Éternel ou que Ésaïe appelle le serviteur. Dans la pensée qui nous occupe, eh bien, nous allons examiner comment, eh bien, ce serviteur qualifié et plein de compassion va accomplir cette tâche particulière, miraculeuse, cette tâche de guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai abordé en partie cela vendredi soir, mais pour nous ce matin, ça va être différent. Alors, voici mon serviteur. Voici, si vous préférez, regardez. Voyez mon serviteur. Parce que c'est ainsi qu'il faut le voir. Ésaïe 41, verset 29, qui se trouve dans la dernière partie, juste avant le chapitre 42, le dernier verset d'Ésaïe 41, dénonce les idoles. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle, voyez, il parle, il détaille ses choses, puis se tournant, il dit, voici mon serviteur. Il est là. C'est lui. Et c'est de lui dont je veux vous parler. C'est ce que disait Ésaïe. C'est à lui qu'il faut regarder. Alors, en début de ce serviteur n'est pas identifié, mais des signes avant-coureurs avaient été annoncés. Ésaïe 7, 14, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'énormes qualifications nous sont données. C'est un descriptif particulier. Un fils, on ne peut pas se tromper. C'est de lui et c'est lui qui sera le serviteur. Il nous est donné. Amen. On ne l'arrache pas, on ne l'achète pas. Il nous est donné. Alors, quelle était la mission de ce serviteur? Rétablir l'ordre, comme il est dit, et la justice dans ce monde. D'ailleurs, le mot « justice » se trouve trois fois dans notre texte, le texte que nous avons lu en introduction, Ésaïe 42, verset 1 à 9. Au verset 6 et 7, il est dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Alors ce serviteur, contrairement ne serait-ce qu'à Adam et tant d'autres qui ont été des personnages importants, qui sont encore décrits dans la parole de Dieu, lui ce serviteur, il obéira parfaitement à la volonté de Dieu, parfaitement à la loi de Dieu. Et c'est justement par son obéissance qu'il sauvera son peuple. Alléluia. Un seul est le modèle puissant, le modèle et le seul modèle, c'est Jésus qui a obéi, qui a fait la volonté de son Père. Alors, quelles sont les qualités de ce serviteur? D'abord, son identité. L'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 21, nous révèle qu'il s'agit de Jésus. Plus également, nous y trouvons ce texte d'Ésaïe, accompli par la personne même de Jésus, par le Fils de Dieu, par Yeshua, par le Messie. Ésaïe 12, verset 14, Matthieu 12, 14, pardon. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr, de faire périr Jésus, parce qu'il dérangeait, il détonnait. Les foules se tournaient vers lui. Les foules de laisser le temple pour suivre Jésus sur les places et tout simplement dans les villages. Donc, ils voulaient le faire périr, le faire disparaître. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumion qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Amen. Chose est sûre, nous sommes en 2025, selon notre calendrier, après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est encore bien présent dans tous les lieux où on se rassemble, tout simplement au nom de Jésus. Alléluia! Il accomplit encore des prodiges et des miracles. Il amène le malhonnête à devenir honnête, le méchant à devenir bon, celui qui n'aime pas à aimer. Alléluia! Celui qui n'a jamais versé de larmes a versé des larmes. Vous savez, celui qui a été endurci par la vie, qui s'est blindé à devenir sensible. Ça, c'est le miracle. Alléluia. Alors, c'est Dieu lui-même qui le soutient. Verset 1er de chapitre 42 d'Ésaïe. « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Toujours dans le même verset. « Il est l'élu de Dieu, mon élu, dit l'Éternel. » Il est celui en qui Dieu prend plaisir. en qui mon âme prend plaisir, dit l'Éternel. Oh, que Dieu puisse prendre plaisir en nous, en chacun de nous. Amen. Vous n'aimeriez pas que Dieu, quelque part, un jour, il cite votre nom. Bon, il va y avoir un serviteur. Je ne dis pas le nom. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais c'est ainsi. Que Dieu nous prenne un exemple. Formidable. Moi, je crois qu'il se réjouit quand, justement, nous vivons sa parole. Quand nous obéissons à ses commandements. Non pas par force, par peur. Vous savez, malheur à moi. Non. Par envie de le faire et par amour pour lui. D'ailleurs, ce n'est pas celui qu'on doit aimer le premier. Eh oui, plus que tout. Eh oui, c'est l'Éternel. Lors du baptême de Jésus, il y a eu cette voix qui venait du ciel et qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. L'Esprit de Dieu est sur lui. Hein, j'ai mis mon esprit sur lui. Et toujours le jour de son baptême, il nous est dit, Matthieu chapitre 3, verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit du Seigneur, dit Isaïe, l'Éternel est sur moi. » Elle parle de l'Éternel. « Car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia. Alors le serviteur est envoyé avec une tâche à accomplir, une mission particulière à accomplir. Sa tâche, bien sûr, sera d'apporter la consolation aux gens de ce monde qui, aujourd'hui, on le voit plus que jamais, sont affligés. Ils vivent dans la peur, dans la terreur, ne savent pas ce que demain sera fait. Mais avec la mission, cette mission qui est d'accomplir leur salut, il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » J'ai entendu cette voix un jour. Je ne suis pas le seul, parce que le Seigneur nous a appelés et vous a appelés vous aussi. Je t'appelle pour le salut, je veux te sauver. Je veux te sauver parce que je t'aime. Je veux te sauver parce que tu as du prix à mes yeux. Peut-être quelqu'un est en train de se dire, « Mais moi, je ne vaux pas grand-chose. Qu'est-ce que je représente ?» C'est Gédéon qui disait qu'il était le plus petit de la plus petite famille de... voilà, tout était petit chez lui. Eh oui. Mais vous savez qu'une petite graine de moutarde peut déplacer des montagnes, hein, quand il est fait allusion à la foi qui déplace les montagnes. Alors, si tu veux, reste petit à tes yeux, mais Dieu te voit peut-être grand. Et c'est ça le plus important. Parce que malheur, hein, quand on se prend pour quelqu'un, quand justement c'est l'orgueil qui nous prend et qui fait que, eh bien, nous disons que tout tourne parce qu'on est là. Et non. Tout va bien et tout va de l'avant parce que le Seigneur est là. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. Alors lui seul peut sauver parce que c'est lui et lui seul qui est né miraculeusement. Et oui. D'abord, il était de toute éternité. Il jouait sur le globe terrestre quand Dieu est en train de créer toute chose. Donc, il est de toute éternité. Hein ? Les autres ont été créés. Quant à lui, Isaïe l'a vu, il a entendu les séraphins crier à son sujet. Hein ? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Alors, c'est Jésus qu'Isaïe appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Alors, souvenez-vous de ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, le Seigneur qui a cru à notre prédication. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Lui, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. C'est celui qui dit, je suis celui qui suis. Si on te demande, qui t'a conduit ici? Qui t'a demandé de faire ça? Celui qui est l'Éternel. Amen. Alors, c'est un serviteur. Écoutez bien, il pourrait se comporter comme les despotes de ce monde, mais c'est un serviteur qui est plein de compassion. Plein de compassion. D'ailleurs, si je reviens un petit peu à ce que je dis souvent en évangélisation, je dis que le salut, c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Il nous a tellement aimés qu'il a choisi de se laisser crucifier sur le bois de la croix. Alors, quand je dis qu'il est plein de compassion, Ésaïe 42, verset 3, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Alors, il ne vient pas pour tout casser, pour tout disloquer. Le texte me dit qu'il vient pour restaurer. Amen. Il vient pour rebâtir. Il vient pour donner de la décence. Alléluia. Pour nous redonner l'innocence. Amen. Son sang qui a coulé sur le bois de la croix nous a lavé, nous a purifié. Amen. Il vient pour être la lumière des nations. Pourquoi? Parce que les nations sont par nature aveuglées. Les nations vivent aujourd'hui dans l'aveuglement le plus total. Mais voici que Jésus vient et dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » L'apôtre Paul qui fait ressortir cette grande vérité de Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Et moi, j'ai pris la version crampon. Tu ne dois pas la voir, je ne pense pas. Si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il reste voilé, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'il voulut rassurer ses disciples, suite à l'annonce de son départ futur, Jésus dira ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il se présente comme la référence. Il se présente comme l'intermédiaire. Il se présente comme le moyen. Alléluia. Ça, c'est le serviteur. Alors, ce serviteur est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Et pour ceux qui sont aveugles quant à la vérité, il est venu pour faire sortir de prison le captif. Pour le faire sortir de la prison, mais quelle prison? Celle du péché. Sortir du cachot, ceux qui sont assis dans les ténèbres de la mort spirituelle, ceux qui sont sans espoir. Nous étions de leur nombre, moi j'étais en tout cas de leur nombre. Et merci Seigneur d'avoir ouvert les portes de mon cachot, de m'avoir fait sortir de là, alléluia, d'avoir fait de moi tout simplement un homme nouveau. Une nouvelle créature, alléluia. Alors c'est ce qui nous est arrivé bien sûr, alors que nous aussi nous faisions partie des gens aveugles. Notre cécité était bien présente. L'Esprit de Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire que dans nos cœurs, dans notre cœur, dans notre âme, eh bien au plus profond de nous-mêmes, la lumière a jailli. Et là, nous avons pleuré parce que nous avons réalisé, pour ma part, ça s'est passé comme ça. J'ai réalisé à la lecture de ce premier texte que je lisais de la parole de Dieu, que Dieu me connaissait et surtout que j'avais conduit Jésus à la croix, que j'avais conduit moi, Bernard Villa, Jésus sur le bois de la croix. Et là, j'ai vu, j'ai connu la vérité. J'ai dit, Dieu me connaît, c'est le vrai Dieu, c'est lui. Il sait ce que j'ai vécu, il sait ce que j'ai fait, ce que j'ai pratiqué. Et mes amis, c'est pas très confortable. Mais heureusement qu'il y a la suite. Si j'ai fait ça, c'est parce que je t'aime. Vous dites pas la vérité à vos enfants? Pourquoi? Parce que vous les aimez pas? Vous voulez les faire souffrir par plaisir? Non. On leur dit la vérité pour éviter qu'ils souffrent. Parce qu'on les aime. Et parce que c'est une chose, c'est quand ils se sont fait mal, on pleure avec eux. Alors on a plutôt envie de se réjouir avec eux que de pleurer avec eux. C'est pourquoi on les dirige, on les conduit, on leur impose des choses. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, hein, tout simplement. C'est lui le Dieu de vérité, c'est lui le Dieu de vie. Lorsque Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, il lui a dit, acte 26, verset 17, « Je t'ai choisi. » Ah, vous le voyez choisi, ce Paul ? Rempli de haine et de violence ? Vous l'auriez choisi ? Répondez pas, hein. Alors, faites-moi un signe. Non ou oui ? Eh oui. Il lui a dit ceci, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors seul le serviteur de l'Éternel peut faire une œuvre pareille, de faire d'un incrédule, mais un croyant qui est comme un modèle. Puisque Paul le dit, hein, regardez ceux qui marchent en harmonie avec la croix, ceux qui vous montrent le bon modèle, ceux qui vont vous encourager, et non pas vous stopper, vous arrêter. Ils vous disent la vérité, mais ils vous encouragent. Amen. Un don spirituel, eh bien, c'est là pour nous enseigner. Un don spirituel, eh bien, c'est là pour nous avertir, pour nous montrer que ce que nous faisons n'est pas bon. Mais il y a la suite derrière. C'est pas un couperet qui tombe et qui finalement nous décapite ou nous rend muets en nous coupant la langue, je sais pas. Hein. Mais un don spirituel, c'est pour nous amener à aller plus loin. C'est pour nous encourager. C'est peut-être pour nous amener à quelque part rectifier notre position pour justement aller dans la bonne direction ou faire le bon geste. Amen. Alors, il n'y a que le serviteur de l'Éternel qui peut faire semblable chose. Son ministère consiste à quoi ? C'est écrit, hein, c'est pas moi, j'invente rien. Hein. Cela consiste à chercher, sauver ce qui est perdu. Eh oui. Ésaïe 42, verset 3, il ne brisera point le roseau cassé. Alors, un roseau, il pousse dans les endroits humides, hein, quelque part marécageux, il ne sert pratiquement à rien, il est si faible. Et nous, peut-être en Provence, un petit peu une haie de roseau pour couper un peu du vent, voyez, un petit peu. En tout cas, un roseau cassé est encore plus inutile. Ben oui. Alors, ce roseau, c'est l'image de quoi ? Eh bien, c'est l'image du pêcheur brisé, cassé. Pourtant, le serviteur ne va pas le briser davantage. Non. Et par ses paroles, il nous a dit ce qu'il ne fera pas, mais pas ce qu'il fera. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire avec un roseau cassé, faible, inutile ? Je rappelle sa mission. Sa mission, c'est de guérir. Amen. Et il y a des vies que Dieu guérit simplement au contact de sa parole. Lors de réunions comme celle-ci, ou des réunions dites d'évangélisation, on annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur guérit ceux qui entendent le message de cette bonne nouvelle. Amen. Et il guérit. Il transforme. Il restaure. Alléluia. Tu restaures mon âme, Seigneur. L'âme, siège de la personnalité, des sentiments et des désirs, il restaure ces choses. Amen. On devient un homme nouveau, une personne nouvelle au contact de l'Évangile. Voilà qu'une âme qui semblait perdue, par exemple le brigand sur la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Souviens-toi de moi. Le Seigneur lui donne la vie éternelle. C'est pas extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement reconnu ce qu'il était. Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Au contraire, il n'a fait que des bonnes choses. Mais pour nous, c'est justice. Je le mérite. Seigneur, Souviens-toi de moi, entre guillemets, aie pitié de moi. Fais ton œuvre, Seigneur. Je sais qui tu es. Alléluia. Ensuite, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Et dans l'évangile, ce texte est traduit ainsi. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Alors, au lieu de lumière, qu'est-ce qu'il y a ? De la fumée. C'est un ancien pompier qui vous parle. Hein ? La fumée, je connais. Il m'est arrivé d'aller éteindre des feux de voiture dans des sous-sols, troisième, quatrième sous-sol, et où se trouvait l'oxygène ? Auprès du feu, pas ailleurs. Donc, il valait mieux aller directement à la voiture pour l'éteindre. Hein ? Voilà. Alors, s'il y a de la fumée, le lumignon, il ne sert à rien. Donc, pour qu'il éclaire, il faut qu'il retrouve la vie. Eh bien, c'est l'image de la personne sans force, sans être en train de douter, de remettre en question sa foi, un petit peu comme qui ? Pierre. Oui, Pierre. Il va être capable de renier trois fois le maître. On peut lui jeter la pierre à Pierre. Hein ? Excusez-moi, c'est un jeu de... Hein ? Le caillou, hein, on peut jeter le caillou. Quand on faisait de l'escalade, je faisais du secours en montagne. Et on avait un collègue de travail, il s'appelait Pierre. Alors vous savez, quand une pierre tombe, vous décrochez une pierre en montant, vous dites « Pierre !» Le gars, il ferme la tête comme ça, il se tend les épaules. Alors lui, il ne fallait pas, hein, parce que lui, il levait la tête. Alors on disait « Caillou !» Hop, il rentrait la tête dans les épaules, comme tout le monde. Et oui, ben, c'était un danger, hein, tout simplement. Alors je ferme la parenthèse. Pierre, il a renié trois fois le maître. Et pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas lui jeter la pierre ? Pierre a quand même marché sur l'eau. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, dont il est dit, il a marché sur l'eau, il est allé vers le Seigneur, en marchant sur l'élément liquide. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc vous voyez, je ne tombe pas la pierre. Hein, regardons un peu nous-mêmes, en disant, eh ben, j'arrive même pas à la cheville de Pierre. Hein. Eh oui. Mais il y a des moments, mais il est passé à côté. Ça ne vous arrive pas de passer à côté ? Ça ne vous arrive pas ? Eh non. Ça nous arrive à tous, bien sûr. Alors, au lieu de le rejeter, que fait le Seigneur ? Eh bien, il le restaure. Il nettoie la mèche. Il remplit son enfant, tout simplement, de l'huile du Saint-Esprit. Puis voilà qu'il se remet à briller. Comme une lumière dans ce monde, il est comme un phare. Alléluia. Un chrétien, c'est comme un phare. Il doit donner envie autour de lui. Alléluia. En le regardant, on doit dire « Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle !» Non ? Oh, regarde comment il réagit, pourtant je sais qu'il vit une épreuve terrible. Mais quelle paix on peut lire sur son visage ! Pas que dans le visage, dans son cœur aussi. Amen. Et oui, parce que la lumière est là, elle brille. Il y a le témoignage du Saint-Esprit. Le psaume 147, verset 3, il dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Donc ça veut dire que oui, sur le chemin de notre pèlerinage, eh bien, on peut avoir le cœur brisé par certaines personnes, par des choses, par des événements, bien sûr. Mais le Seigneur est là. Et c'est important qu'il soit près de nous. Parce qu'il va panser tout simplement nos blessures. Ésaïe dit de la part de Dieu, en parlant de la venue de Jésus, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ailleurs encore, il précise, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça ne vous arrive pas à être fatigué. Vous êtes des surhommes et des surfemmes. Je pense qu'il nous arrive à tous à des moments d'être « J'en peux plus, Seigneur ». Ça ne vous arrive pas d'avoir ce cri. Et puis vous vous ressaisissez. Ouais, mais Seigneur, tu es là. Non ? Ben oui, heureusement que tu es là. Eh oui. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Alors comment Jésus, le serviteur, fait-il pour réparer et guérir les cœurs ? Ésaïe nous montre l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus pour guérir. Ésaïe 53, versets 4, 5 et le verset 10. Il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » D'accord ? C'est-à-dire que tes souffrances actuelles ou passées ou futures, le Seigneur les a portés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ah, quelle erreur! Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Alléluia! Nous sommes cette postérité. Amen. Et il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ah oui, Jésus a été brisé, il a été blessé. Pourquoi? Gratuitement? Parce que Dieu prenait plaisir à le faire souffrir? Non. Il a été brisé et blessé pour que notre cœur brisé soit guéri. Amen. Les meurtrissures qu'il a subies pour nous nous apportent la guérison. Dans la personne de Jésus, il y a une provision de guérison. Amen. Il y a ta guérison. La guérison de ton cœur qui a été brisé. La guérison, elle est là dans la personne de Jésus. Amen. Lui qui n'a jamais commis de péché s'est chargé de tous nos péchés. Les miens, on va rajouter ceux de Marc, il est devant mes yeux, de Marie-Paul, Fabienne, et en avant. Vous vous rendez compte, on est quelques-uns. Mais imaginez sur toute la face de la terre, tous les péchés qui ont été commis. Eh bien, le Seigneur s'en est chargé. Amen. Et il nous en délivre. Ce n'est pas extraordinaire? Moi, quand je me suis converti, j'étais tellement bien. Là, vous savez, dégagé, complètement dégagé. Vous avez vu la publicité du professeur Tournesol, il fut un temps, sur une certaine huile? Léger, léger. Et le professeur, il montait. Bon, c'est une image. Hein. Mais moi, j'étais comme ça. Léger, léger. Tel point que ça a irrité certaines personnes qui vont dire, on va percer la bulle, tu vas redescendre un peu. Hein. Ben oui, mais c'est ça. Quand on est de nouveau, quand on passe par la nouvelle naissance, quand on rencontre le Seigneur, on remet les valeurs à leur place. Ce qui n'a pas d'importance, tout en bas. Le Seigneur s'en occupera s'il veut. Et si c'est bien, sinon on laisse tomber. Amen. Certaines futilités qui n'ont plus place. Alléluia. Ce que l'on veut, c'est le bien du prochain. C'est réjouir le cœur du Seigneur. C'est être en paix soi-même. D'abord avec sa conscience, mais avec Dieu. Parce qu'on a envie de cela. Hein? Alléluia. Alors je termine avec ce texte. C'est Ésaïe 35, verset 4. Je crois que je te l'ai donné. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Vous vous rendez compte? Les sourds, ils vont entendre. Alléluia. Bon, c'est avec la conscience aussi, hein, c'est avec le cœur. Voir également. Hein. Et le boiteux. Des boiteux dans la vie, il y en a. Hein. Je ne parle pas que physiquement, mais là-dedans, il y en a aussi des boiteux. Hein. Mais oui, 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 oui. Et puis la langue du muet qui éclate de joie. Alléluia. Même dans le désert. L'eau qui jaillit, dans la solitude des ruisseaux qui sont là. Le Seigneur est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Sauf. Sauf. Quand nous, nous sommes complètement à côté de la plaque, que nous nous fourvoyons dans le péché, dans l'interdit, là, le Seigneur, il ne suit pas. Il nous attend à la sortie. Non pas pour nous en mettre deux, mais pour nous dire, remets-toi en question. Repends-toi. Repends-toi. Amen. Et quand je me repens, je sens que le sang de Jésus, il passe. Il est en train de me laver. Vous voyez ? Ce n'est pas la lessive, mais intérieurement, il se passe quelque chose. On sent qu'on est dégagé. Et puis on dit, eh bien, je vais retenir la leçon. La prochaine fois, je ne tomberai pas dans ce travers. La prochaine fois, je ferai attention au signal qui s'allume. Signal qui me dit, attention, ma fille, tombe pas dans le piège. Ouvre les yeux. Ah oui, je m'étais un peu assoupi. Eh bien voilà, ouvre les yeux. Ne te laisse pas surprendre. Vous savez, c'est comme ça qu'il nous prend. Hein, une situation imprévue, nous on est au repos, tranquille. Et voilà qu'une circonstance particulière arrive. Et puis on réagit mal. Parce qu'on n'a pas pris le temps de la réflexion. Le temps de nous placer devant le Seigneur. Le temps justement de l'interroger. Et de dire, Seigneur, que ferais-tu dans telle circonstance ? Nous, c'est comme ça, voilà. Moi, je le vois comme ça. On agit par réaction. Paf, paf. Et ce n'est pas bon, hein, réagir par réaction. Il vaut mieux agir. Il vaut mieux se tenir sur ses gardes. D'ailleurs, il le dit, avant le retour du Seigneur ou à son retour, nous trouvera-t-il veillants et priants, c'est-à-dire vigilants, dans la réflexion, en train de l'interroger, de parler avec lui. C'est ça, hein ? Parce qu'on l'a entendu dans le don spirituel, le Seigneur revient. Vous avez une date ? Moi non plus. Mais il vient bientôt. Le texte littéral, je vous l'ai déjà dit, c'est « Il est le venant ». C'est-à-dire qu'il est en train de venir. Amen. Alors bénissons-le. Bénissons Dieu pour le serviteur qu'il nous a donné. Alléluia. Capable de guérir nos cœurs, nos âmes, nos esprits, de faire le miracle. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de prendre soin de nous chaque jour. Merci de nous avoir visités un jour, de nous avoir éclairés, Seigneur, sur notre misère. De nous avoir montré le chemin de la vie. Seigneur, c'est toi qui tout simplement nous a pris en main. Parce que nous t'avons permis de le faire, parce que nous t'avons invité, Seigneur, tout simplement à venir dans notre cœur, dans notre âme. Merci de nous garder sur le chemin de la vie. Merci de nous interpeller, Seigneur, et de nous réveiller, de nous secouer quand il le faut, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans tes travers, mais que nous restions tout simplement dans ta présence, Seigneur, en harmonie avec ta parole. Que nous réjouissions ton cœur, Seigneur. Merci pour ces exemples qui nous sont donnés dans l'Écriture. Où nous voyons qu'il y a eu de la souffrance suite tout simplement à ce manque de sérieux. Seigneur, sois béni pour ton église d'Arles. Merci de continuer à bénir ton peuple, Seigneur, chacun de tes enfants. Rajoute également ce que tu veux sauver, parce que tu es venu pour sauver. Tu es venu pour guérir, mais tu es venu pour sauver. Alléluia. Merci pour ceux qui déjà en sont entrés dans ton plan et ceux qui vont encore y entrer dans l'avenir. Parce que, Seigneur, tu œuvres ici-bas. Je te bénis de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu.